Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Par les temps qui courent, rencontre tous les soirs des artistes pendant une heure. Et ce soir, on discute avec Rebecca d'Outremer.
Un tango, une danse, un baiser.
Et du coup, t'as pépé, t'es pépé.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent, Romain de Bec de Lièvre avec Rebecca d'Outremer.
Si tu traverses avec les yeux ce livre-là, tu pourras t'y réfugier, bien peinard, autant de fois que tu en auras besoin. Et crois-moi, c'est une sacrée chance d'avoir un endroit où se réfugier en cas de besoin. C'est par cet avertissement que s'ouvre Midi Pile, votre dernier livre, Rebecca d'Outremer. Il fait suite aux très riches heures de Jacominus Gainsborough, qui racontait les événements ordinaires de la vie d'un lapin qui porte le nom d'un peintre, de sa naissance à sa mort. Midi Pile est un livre aux pages trouées, aux pages sculptées, où l'histoire progresse, lorsque l'on tourne les pages, en soustrayant des images découpées et superposées. C'est l'histoire d'un rendez-vous entre deux lapins, un livre adressé, une traversée du temps et de l'espace qui nous invite à nous dépêcher pour mieux attendre. Bonsoir Rebecca d'Outremer.
Bonsoir.
Midi Pile et les très riches heures de Jacominus Gainsborough sont tous deux publiés aux éditions Sarbacane et on peut dire que vous avez reçu le prix Pépite du livre illustré au dernier salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Bravo et bienvenue.
Merci.
Je lisais cet avertissement qu'il y a en introduction de votre dernier livre, Midi Pile, avec cette idée que le livre est un refuge. Est-ce que c'est une chose qui est importante pour vous ?
Alors c'était important de toute façon de mettre un avertissement, il n'y a pas de quoi avertir, mais de m'adresser au lecteur comme je l'ai fait précédemment dans Les Riches Heures et dans le livre précédent encore. C'est important pour moi de m'adresser au lecteur. Il se trouve que ce livre-là, il est particulièrement fragile dans sa fabrication. Donc j'avais quand même envie, même si ça paraît évident, que les plus jeunes lecteurs ou les plus maladroits fassent un peu attention à la manipulation. Et puis ça me permettait de dire autre chose, et puis voilà, ça me plaît de commencer les livres en disant mon petit mot, mon petit top départ, quoi.
Quel rôle ça a aussi, ouais, cet avertissement ?
Alors, de façon générale, dans les albums que j'ai commencé à faire en tant qu'auteur-illustrateur, c'est vrai que j'ai pris le parti de faire cette préface qui compte beaucoup pour moi. Alors, je crois, j'avais une des explications, c'était que je commence mes premiers pas, en fait, dans l'écriture. J'avance un peu timidement dans l'écriture. Jusqu'à présent, avant de faire cet exercice, j'avais toujours fait des textes au service de mes images. Et là, j'ai pris le travail un peu différemment, mais je crois que j'y suis allée avec un peu de timidité. Et j'ai eu besoin de, je sais pas, peut-être la première fois, de me justifier, de me présenter. Ouais, tout simplement de me présenter au lecteur. Et j'ai eu besoin de lui parler avant qu'il se mette à lire mon texte, parce que peut-être que je suis pas encore sûre de moi et il doit y avoir quelque chose comme ça. Et après j'y ai pris goût et j'ai envie de continuer à faire mes petites interludes d'auteur, quoi, au milieu de l'histoire du livre. Je sais pas bien expliquer pourquoi j'ai fait ça, mais ça me plaît beaucoup.
Midi Pile, c'est un livre qui est intégralement adressé aussi. C'est-à-dire, il y a un personnage qui parle à un autre personnage. Qu'est-ce que ça dit, ouais, de votre rapport à l'écriture, ce fait que ce soit tout le temps, souvent adressé, qu'il y a un tu?
Alors oui, le texte donc est à la deuxième personne. Alors, ça correspond aussi à la construction même du livre. Et là, peut-être qu'il faut prendre un peu de temps pour le décrire, même
ouais.
Si on est à la radio, c'est important. Donc, c'est un livre qui raconte déjà l'histoire d'un rendez-vous. C'est une rencontre. Il faut savoir que ce livre, comme vous le disiez, on le traverse physiquement puisque les pages sont trouées et que dès la première page, on peut distinguer entre les petites interstices du papier découpé, on peut distinguer la dernière page. Donc on va réellement traverser au moins du regard, et comme je disais dans la préface, je suggérais de pas le traverser ni avec les pieds ni avec les mains, parce que c'est un peu dangereux pour le papier, mais on va vraiment traverser le livre. Et le rendez-vous a lieu entre deux personnes, une qui est au début du livre et qui est donc physiquement, qui va traverser les pages pour rencontrer la seconde personne qui l'attend à la fin du livre. Et on suit donc avec les yeux, on est en vue subjective de la personne qui se rend au rendez-vous, mais on lit sur chacune des pages qu'on va tourner les pensées de celui qui attend au fond du livre. Donc en fait, le tu du texte s'adresse à la personne qui prend, le lecteur prend la place de celui qui se rend au rendez-vous, et je m'adresse bel et bien au lecteur comme à l'objet du rendez-vous, si vous voulez. Voilà, c'était une façon de relier les deux bouts. Je sais pas, est-ce que ça aurait marché en disant il pense que, non, je crois pas. Ça aurait été un autre bouquin.
Quand on regarde mon travail, c'est vrai que il faut un déplacement, c'est vraiment un piège. Les gens sont devant, bon, ils appréhendent le premier dessin, mais il y a quelque chose derrière. Enfin, c'est le principe du diorama, où il y avait un plan derrière un autre plan, derrière un autre plan. Mais pour voir l'autre plan, comme il y a des parties transparentes et des parties opaques, il faut se déplacer. Enfin, c'est une prise de conscience de la part de celui qui voit, de son regard, parce que tout d'un coup, ça devient une chose qu'il faut bouger et tourner autour. C'est pas une chose qui est donnée du premier coup d'œil. Enfin, mais c'est vrai que moi, je m'amuse beaucoup moi-même en le faisant, tu vois, en disant, mais là, je veux faire ça. Puis il y a des choses, enfin, chaque dessin, j'ai un projet dans ma tête. Mais ma main, il y a déjà, je ne suis pas encore assez habile pour complètement maîtriser. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sortent de ma main qui sont une surprise pour moi. Et le temps aussi, je mets très très longtemps à faire un dessin, je mets une dizaine de jours, mais ça se sent, il y a le temps qui entre comme ça dans la fenêtre et dans l'épaisseur de la fenêtre, enfin tout ça. Mais en même temps, dans ces dessins, c'est l'invisible qui est dans la boîte, enfin c'est l'air de la boîte, c'est ce qui est entre les deux dessins, c'est encore le rien qui est important dans mon dessin. Bien sûr, il y a une fenêtre, bien sûr, il y a un arrière-plan, bien sûr, il y a des jeux de plusieurs plans, il y a des jeux de choses comme ça, de souffle d'air qui passe, mais c'est justement le souffle d'air qui est le rien. Enfin, donc je suis arrivée à ce que j'aimais vraiment, c'est, tu sais, ce qui n'est pas traduisible par les mots.
Rebecca Lautremer, on entend la voix de l'artiste peintre Colette Deblé, une archive de France Culture, c'était les Nuits Magnétiques en 1978, où elle parle de son travail, c'est une archive assez dense, où elle dit beaucoup de choses, mais elle dit entre autres que dans son travail, ce qui l'intéresse, c'est de faire prendre conscience à celui qui le regarde, de son regard justement. Est-ce que ça résonne avec votre pratique du dessin ?
Oh là 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 là, j'ai du mal à vous répondre. Là, c'est particulier, en plus, elle parle. J'aimerais voir exactement l'œuvre dont elle parle, puisque j'ai l'impression qu'il s'agit donc d'un objet qui a du volume. Si on parle de ce livre Midi Pile que j'ai, c'est encore un cas très particulier, puisqu'on est bel et bien dans un livre avec de l'illustration et du texte, et là je fais mon travail d'auteur de texte, d'auteur d'image, mais le fait que ça devienne aussi un objet et qu'il y ait un volume et un espace, il y a une invitation au lecteur à exister dans cet espace minuscule, si vous voulez, il y a un espèce de monde qui est réellement créé physiquement, on n'est pas dans du symbole, des mots ou des images, on est physiquement. On ne peut pas y pénétrer avec son corps, mais on plonge dans un monde en papier. Et donc, c'est plus presque du théâtre, le rapport à cet objet-là. En plus du fait que ce soit un livre, moi je tiens à ce que ce soit un livre et que le texte se lit, se comprend et s'appréhende comme n'importe quel texte de n'importe quel livre, enfin. Mais vous aviez l'air d'insinuer que je maîtrise tout à fait ou qu'on maîtrise tout à fait ce qu'on va pousser le lecteur à faire, et alors non, pas du tout.
C'est une tentative en tout cas.
Moi j'ai des envies de partager des choses et je me dis tiens, je vais faire ça, ça va marcher, mais je n'ai zéro certitude, jamais, jamais, jamais. Et alors il se trouve que là pour cet album-là, je commence à avoir des retours et des réactions et ça a marché, mais au-delà de mes espérances. Donc je me dis peut-être que je devrais mieux me fier à mon instinct et mes. Et à ce que je ressens moi, en sachant que oui, ça va être transmis à celui qui s'emparera du livre. Mais enfin, ça marche quand même pas à tous les coups.
Elle parle aussi dans l'archive Colette Deblé du travail du temps. Et on peut pas s'empêcher de penser, en lisant vos ouvrages, que ce sont des volumes qui prennent un temps assez important.
Alors oui, moi ça me correspond bien, c'est vrai. Elle dit qu'elle met une dizaine de jours pour faire un dessin. Encore une fois, je voudrais voir vraiment de quoi elle parle. Mais moi, j'aime travailler dans le temps. En plus, les livres, les derniers albums que j'ai travaillés, le temps est un des principaux sujets. Et il se trouve, oui, qu'il me faut du temps pour réaliser mon travail, ne serait-ce que pour l'image. parce que j'ai une technique longue, parce que je travaille à la main, que je suis sur du papier, et qu'en plus j'ai plaisir à passer des heures et des heures à dessiner des feuilles d'arbres par milliers, ou des dégradés de ciel et de, je sais pas, d'un nuage très doux, avec une lumière et une belle ombre, dégradée sur un sol ou n'importe, ou dessiner des motifs sans fin. Enfin, c'est un peu un travail un peu méditatif. Et ça correspond à ce que j'aime. Et j'ai, alors, donc je mets du temps pour faire mon travail, je parle du temps et j'ai envie que le lecteur me consacre du temps aussi. C'est pour ça que je remplis aussi mes images de détails, de choses à regarder et à découvrir par étapes avec le temps. Et je prétends, puisque moi je consacre du temps à mon travail, que le lecteur doit me donner de son temps. Et j'ai pas envie que le livre soit feuilleté à toute bringue. Et en deux secondes, j'ai envie de le coincer, en fait, le lecteur, dans mon temps à moi, quoi. Donc ouais, il est tout le temps question de temps, en fait, dans cette histoire.
D'autant que dans Midi Pile, vu la finesse aussi de la découpe des pages, c'est un livre qui invite à la délicatesse aussi, dans manière de le manipuler.
Oui, j'ai cru que vous alliez parler de l'aspect technique de la découpe des pages, sur lequel j'ai pas grand-chose à dire, parce que c'est un laser qui travaille bien tout seul, et la nuit certainement, mais on n'a pas beaucoup d'état d'âme avec lui.
On peut le laisser travailler tout seul.
Ceci dit, c'est très long à fabriquer, le laser, il doit bel et bien découper les feuilles une à une, et contrairement aux rotatives qui tournent dans les imprimeries et qui impriment les pages par paquet de 16, toutes les dixièmes de seconde, je sais pas. C'est pas du tout le cas pour la fabrication de ce livre. Mais bon, ça, c'est un aspect technique peut-être moins intéressant. Mais c'est vrai que ce livre de Midi Pile, il est tellement fragile. Il menace de se déchirer, pas à chaque fois qu'on tourne une page, mais presque, que je force la personne qui va le manipuler, si elle veut bien m'accorder un peu de délicatesse, à prendre le temps de tourner les pages et à prendre le temps d'aller au rendez-vous. Et ça tombe très bien, puisque mon fameux personnage qui attend au fond du livre, il s'impatiente. Les secondes, les minutes s'égrènent. Ça l'énerve, quoi. Il a peur que son rendez-vous n'arrive pas. Et le lecteur qui avance péniblement à travers mes découpages se retrouve un peu dans cette situation d'avoir à passer les secondes les unes après les autres. En fait, le livre, le temps du livre, le temps de l'histoire, c'est 4-5 heures pour arriver à ce fameux midi pile. Alors, il faut peut-être pas 4-5 heures pour tourner les 200 pages, mais on ne fait pas en 30 secondes. Donc ça m'arrange bien que la fragilité du livre demande du temps à la manipulation. Ça n'a aucun sens de feuilleter ce livre en 30 secondes. Ça correspond pas à l'ouvrage, quoi.
Sur la couverture, on voit des rouages aussi. Une espèce de rouage de machinerie. Et je me suis demandé, en feuilletant, on se demande fatalement comment cette superposition a pu être conçue d'une manière générale.
Alors c'est vrai qu'il y a
la superposition des pages, vraiment.
Techniquement, pour concevoir le livre, c'est un peu un casse-tête, puisqu'encore une fois, il faudrait, si possible, que les gens qui s'y intéressent aillent voir quelques images pour bien comprendre l'objet. Mais c'est comme une succession de 100 décors de théâtre placés les uns derrière les autres, qu'on va dévoiler en tournant les pages les unes après les autres. Et c'est comme un long travelling avant à travers 100 plans de décor, si vous voulez. Et on passe d'un espace de l'intérieur d'une maison, en l'occurrence une chambre, pour traverser un salon, on passe la porte d'entrée de la maison, on passe un jardin, on traverse le jardin, on ouvre le portail, on passe les bois, on arrive dans les vergers, les faubourgs de la ville, on traverse la ville, on arrive sur le marché, on ressort de la ville, on passe les remparts, etc. Et on arrive jusqu'à des docks, puis on arrive jusqu'au port et jusqu'à la mer. Tout ça en tournant les pages les unes après les autres. Donc comme une longue marche, un long travelling avant. Et il a fallu, moi, que je place mes 100 décors les uns derrière les autres pour que le décor se dévoile petit à petit, mais qu'il apparaisse, que les éléments du décor apparaissent au bon moment. Parce que moi, dès le début, encore une fois, dès la première page, je vois le fond du livre et sont présents, mais cachés, par exemple, les mâts des bateaux du port ou les arbres du verger. Il faut évidemment pas qu'ils apparaissent au début du livre, quand on est dans la chambre ou dans le salon. Donc il y a une espèce de casse-tête, je ne sais pas si je me suis très claire, mais pour que les mâts du bateau soient cachés exactement derrière le chambranle de la porte ou que l'arbre soit caché derrière l'immeuble qui va permettre que le lecteur soit au bon endroit au bon moment. Alors ouais, c'est un travail un peu... C'est du casse-tête, quoi. Mais ça n'est qu'un jeu de... Si vous voulez, c'est comme un... Il faut imaginer ça physiquement. Si vous aviez 100 décors sur une table et que vous deviez les placer... Là, je fais des grands gestes, mais au millimètre près pour que...
Ça cache.
Voilà, pour qu'on visualise la bonne chose au bon moment. Mais en même temps, c'est ça qui est rigolo aussi pour le lecteur. Parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas sous les yeux le port de la fin du livre, par exemple. Mais il est quand même bien là. Mais ça, il s'en aperçoit à la fin. Donc, pense, j'imagine, après tout, il faudrait leur demander, mais que c'est amusant de se dire, oh là là, derrière cet arbre, derrière cette porte, en fait, il y avait tout un verger, et derrière ce verger, il y avait toute une ville, et derrière ces remparts, il y avait tout un marché. Voilà, c'est aussi ça le mystère un peu de ce livre, et peut-être le côté un peu fascinant qu'il peut avoir, mais c'est pas trop à moi de le dire, parce que moi, je le connais par cœur. Donc...
Pourquoi avoir repris les personnages de Jacominus Gainsborough?
Alors, c'est autre chose, un peu... Il n'y a pas que des bonnes raisons. J'avais travaillé le personnage de Jacominus Gainsborough donc dans un premier album que vous citiez qui s'appelle Les Riches Heures de Jacominus Gainsborough, qui est paru l'année dernière et qui était un album qui a une forme tout à fait classique et où j'avais entrepris j'avais décidé de raconter toute une vie du début, vraiment des premiers instants, jusqu'à la fin, donc jusqu'à la mort de mon personnage. Et mon but était vraiment de parler de la vie. Donc en 48 pages, hein, donc c'était très ambitieux et j'allais dire 20 en même temps, mais je voulais parler des grands moments de la vie, les rencontres, les déceptions, la mort d'un proche, les joies, la sérénité de la vieillesse, enfin des espèces de grands thèmes comme ça, bien lourds, ce que j'ai fait. Et j'avais pas l'intention avec Jacominus Gainsborough de poursuivre forcément le livre avec ce personnage-là, mais en racontant sa vie et en commençant à peaufiner un peu sa personnalité, je me suis dit mais très bien, j'ai posé des bases, mais maintenant j'ai vraiment envie de continuer avec ce même personnage. Alors je précise quand même que Jacominus Gainsborough a la tête d'un lapin, mais ce qui n'est pas très important finalement, puisque je ne joue pas avec le fait que ce soit un lapin. C'est aussi une façon de m'adresser aux enfants et d'avoir un animal, un monde d'animalie comme ça un peu décalé, mais c'est pas ça l'important.
Pas l'important qu'il ait la tête d'un lapin.
C'est pas important dans l'histoire puisqu'il a une vie très humaine. J'avoue que c'est très fourbe de ma part. C'est un petit lapin qui est, je crois, très très mignon, enfin très doux, et c'est une façon très perverse de que les personnes mettent la main sur le livre, et notamment les plus petits aussi, et surtout les parents, qui se disent « Oh, l'histoire d'un petit lapin, c'est tout à fait bien pour mon petit. » Et après, quand ils ouvrent, hop, je peux leur balancer des grandes vérités sur la vie.
Vous le pensez comme un piège?
C'est un gentil piège. Reste un gentil lapin.
Un piège toujours.
Mais un piège, c'est une façon pour moi de pouvoir en même temps prétendre aborder des thèmes... soi-disant plus adulte, même si je ne crois pas que ce soit plus adulte de parler de la mort d'un proche, où je pense qu'on est tous évidemment concernés, mais dans un monde officiellement plus doux et plus enfantin. Mais tout ça, c'est très officiel, mais c'est faux.
C'est des codifications.
Voilà. Et je pense que si j'avais j'aurais pu essayer, mais dire voilà, je vais parler de la vie de quelqu'un et d'avoir fait un être humain, et de parler de sa naissance et de sa mort, et de ses déceptions, et de son divorce, ou je ne sais pas quoi. Enfin, ce n'est pas le cas de mon lapin, mais... ça aurait été tellement réel, peut-être que les gens s'y seraient moins plongés et pour leurs enfants, ils auraient moins eu envie de partager cette vie-là. Et là, le fait que ce soit un lapin et qu'il soit entouré d'animaux, bon, on peut arriver à parler de la vie finalement très humaine. Je crois que ça marche. J'ai l'impression que ça marche. Je crois que j'en ai eu pas mal. Je les ai bien eus. Et je vais continuer tout ça pour répondre à la question. J'ai envie de continuer de parler de ce personnage-là. Et de poursuivre et de raconter des moments de sa vie. Et comme j'ai pas du tout envie de faire une série de livres, Jacominus 1, 2, 3, 4, ça m'amuse pas du tout. Je me suis dit, tiens, je vais aborder des principes de narration différents à chaque fois. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre Midi Pile en papier découpé. Donc l'objet, la narration, le ton, là, donc comme vous disiez, je suis la deuxième personne, ça n'a rien à voir. Et je peux aussi me permettre un exercice de style pour mon propre plaisir, tout en explorant l'univers de ce personnage-là, qui est entouré de toute façon d'énormément de personnages, et ça se prête bien pour raconter un tas d'histoires. En fait, c'est sans fin. J'ai juste posé un monde. Dans Les Riches d'Heures, j'ai juste posé un monde, et j'ai plus qu'à m'amuser dans ce monde-là. Pourquoi l'avoir repris? C'est simplement que c'est tellement simple de le reprendre, et il y a tellement de choses à faire dans ce monde-là que ça aurait été dommage de me priver de ça. Et en plus, ceux qui connaissent le premier album, ils peuvent avoir plaisir à redécouvrir dans Midi Pile tous les personnages qu'ils ont rencontrés dans le premier, mais parce qu'ils passent dans les pages. Moi, ce qui me plaît, c'est que les personnages passent dans les pages sans avoir un rôle particulier, comme les gens qu'on croise dans la rue, en fait. Pardonnez-moi, je suis beaucoup trop bavarde.
Non, ça va.
Bon.
Je vous propose qu'on écoute justement une archive de Gilles Ayot qui va parler des animaux, justement.
La tête d'Arina Seyros est impressionnante comme configuration et tranquillité dans la fixité de l'apparence. Enfin, je veux dire, il a des rides qui bougent pas. Enfin, il te montre son visage comme personne ne le montre. Enfin, je veux dire, je suis en face de la chose elle-même, dans un certain sens. C'est un mystère pour moi. C'est comme si je trouve un caillou sur la plage, ou un ossement, ou je ne sais pas quoi. C'est une chose à regarder, parce qu'elle ne bouge pas. Même elle s'exhibe, enfin. Un animal, dans la mesure où il est coincé, parce que si on le voit dans la réalité, dans sa vie, tu ne le verras jamais, naturellement, puisqu'il ne veut pas te voir. Donc il sera ailleurs, le dos tourné, dans un autre pays, n'importe où. Mais dans la mesure où on le coince, c'est-à-dire où on le met là, dans cette cage, il est ultra visible, si tu veux. Il est extraordinairement apparent, beaucoup plus qu'il ne voudrait l'être, enfin.
Rebecca Lautremer, on entend la voix de Gilles Ayot, le peintre, qui parlait du fait de dessiner les animaux sur France Culture, les ateliers de la création en 1985. Et donc vous avez dit tout à l'heure que les animaux étaient d'une certaine manière un peu un prétexte pour parler des humains.
Bah, on peut dire ça comme ça. Dans ce cas-là, oui, complètement, dans mon cas. Il y a d'autres raisons pour lesquelles c'est très plaisant de dessiner les animaux. Dans mon cas, oui, mais après, on fait ce qu'on veut avec les animaux. On fait les choix qu'on veut. Après, c'est vrai que c'est très plaisant, c'est très amusant qu'il parle d'un rhinocéros,
oui.
Parce que c'est vrai qu'il y a une réalité physique du rhinocéros. J'en ai dessiné un dans les Rigeurs de Jacominus, j'en ai fait un personnage. C'est génial, un rhinocéros à dessiner. Et physiquement, la peau du rhinocéros, c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Il y a peut-être moins de pudeur à dessiner les animaux, parce qu'ils ne nous ont pas donné leur avis. Ils sont coincés, c'est ce qu'il dit.
Ils sont coincés, oui.
Donc on peut se permettre de les regarder de très près, d'aller dessiner toutes les rides du rhinocéros. Est-ce qu'on ferait ça d'une vieille dame? Oui, on pourrait aussi, mais il y aurait un rapport différent. Donc voilà, il y a le plaisir du peintre aussi de la matière des animaux, et en même temps ce sont des personnages.
Parce qu'il y a tous les animaux qui y passent, hein, les animaux à plumes, à poils, vous avez tous dessiné?
Non.
Non, pas tous.
Faute, je n'ai pas dessiné de chat.
Il n'y a pas de chat?
Non, pas dans les rigeurs, j'aime pas beaucoup. Je veux peut-être ouais. Que je me trompe, je crois qu'il y en a
Faudra
un.
Faudra vérifier.
J'ai fini par en glisser un dans Midi Pile, mais j'ai pas mis de chat.
Et pourquoi pas de chat?
Bah parce que ils me sont... Peut-être qu'ils sont si familiers que... Les chats et les chiens, j'ai plus de mal, mais ils sont si familiers qu'on... Peut-être qu'on a... J'ai du mal justement à les regarder avec impudeur, je sais pas. Non, c'est une fausse réponse. Ils me sont pas très sympathiques. Et ils sont, enfin, en même temps, on pourrait dire la même chose du lapin. Et le lapin, c'est tellement présent dans les livres pour enfants. Enfin, c'est mâché et remâché. Je sais pas pourquoi le lapin est plus sympathique que le chat. Il est trop humain, le chat. Peut-être il y a un truc.
Gilles Ayot parle dans l'archive du fait que la nature s'exhibe. Enfin, alors on ne sait pas s'il parle exactement de sa pratique, mais je repense aussi à toutes les pages dans les Rigeurs de Jacominus où vous faites. Un peu comme un herbier ou comme un album photo, des espèces de recensions de têtes d'animaux ou alors de choses vues. Quelle place ces pages, elles occupent?
Alors là, dans ce cas-là, je n'avais pas pensé à l'herbier, mais quand même à l'album photo. De façon générale, la photo d'album photo me plaît beaucoup. Dans le cas des Rigeurs de Jacominus, il s'agit donc d'une vie. Et l'album photo dans une vie compte. Et ce qui me plaisait, c'est l'accumulation des photos dont on sait ce qu'elles sont ou pas. Il y a 3 pages dans le livre. Il y a les choses que Jacominus a apprises. Enfin, une double page sur ce qu'il a appris. Les gens qu'il a rencontrés et les choses qu'il a attendues. Et donc, j'ai fait une double page avec un étalage comme si c'était des photos de sa vie. Et sur la page des gens qu'il a rencontrés, par exemple, là où est le rhinocéros, il y a une vingtaine de portraits de gens qu'il a rencontrés, des gens qu'on peut identifier parfaitement, on sait ce qu'ils ont, leur place qu'ils ont dans l'histoire, et d'autres dont on ne sait pas très bien qui ils sont. Comme on retrouve chez soi une boîte de photos de famille, et on voit bien, alors on identifie le grand-père, l'oncle, la tante. Et puis, il y a la photo de l'inconnu, là, qui se balade. On regarde derrière. La grand-mère n'a rien noté. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de lieu. Alors, on peut se demander, est-ce que c'est l'amant de la grande-tante? Est-ce que c'est le voisin? Est-ce que c'est l'huissier qui est venu, qui a ruiné le grand-père? Enfin, moi, j'aime bien. Et puis, alors, ça fait ressortir des histoires. On croit savoir que c'est le cousin qui est mort à la guerre. Mais non, c'est pas lui, c'était le... Voilà. C'est exactement ça qui me plaît. Donc c'est ce que j'ai fait dans Jacominus. Et puis pareil pour les lieux, des lieux dont on ne sait pas très bien. Est-ce que c'est le là où on est allé pique-niquer en 75 ou est-ce que c'était le jour du baptême du machin? Enfin, est-ce que ça fonctionne comme un herbier? Ben, y a l'effet recensement de choses qu'on connaît plus ou moins bien. Donc dans un herbier, oui, on va bien reconnaître la marguerite, mais donc la fleur dont je ne connais pas le nom, qu'on ne reconnaîtra pas, je ne peux pas vous la citer. Mais oui, il y a un côté recensement et collection. Collection d'événements, de lieux, de personnes, d'une vie. C'est comme ça que fonctionnent ces pages.
Quel rapport vous avez, avec, de manière assez générale, enfin dans le dessin, avec le paysage?
Alors, je pense très franchement que si je peux, mon travail me le permet, si je peux en vivre, si je pouvais dessiner que des paysages, ça m'irait très très bien. Mais je crois que c'est hyper banal, en vieillissant, on s'émeut de plus en plus de la nature. Et ça me plaît de plus en plus de dessiner un champ, un ciel. Le ciel, c'est le truc, ce qui me plaît beaucoup en ce moment, c'est ce qui me demande beaucoup de temps, de dessiner point par point, bah, je vous le disais tout à l'heure, le dégradé d'un nuage ou le velouté d'un champ de blé. Enfin, c'est facile avec les mots, c'est beaucoup moins facile avec le pinceau. Hein. Et ce qui me plaisait, toujours pareil, dans la vie de ce personnage, c'était de le mettre dans des paysages. Et notamment de le perdre, par exemple, sur une plage très grande. Et aussi pour que le lecteur cherche où sont les personnages dans le paysage. Et ça m'amusait des fois de les dessiner très 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 petits, perdus dans une immensité. Et te dire, tiens, on voit des silhouettes, mais est-ce que c'est bien lui? Est-ce qu'il est là? Non, il aurait pu être là. Ah non, c'est lui. Et je sais pas, moi ça me fait rêver. Et d'ailleurs, dans ce livre-là, très rarement, les personnages sont en premier plan. Je suis en train d'essayer de passer en revue mes images dans ma tête. Oui, j'ai dessiné la montagne, la mer, il y a une ville. Et c'est aussi, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est une façon que le lecteur aille se perdre dans les replis du paysage pour aller découvrir le petit bonhomme qui se balade là au fond du chemin et replonger dans une autre vie ou un autre moment. Et avoir une vision plus large, ben voilà, sur la vie, le monde. C'est sûr que si vous faites un gros plan d'une action, un moment T, avec des personnages bien précis, bon, ben on est plus cerné dans l'action. Et c'était pas du tout l'objet de ce livre-là, puisque je parlais de la vie, de toute la vie.
Est-ce qu'il y a un plaisir particulier où il y a justement dessiné des figures très petites, enfin, travailler dans la minutie?
Oui. C'est encore une fois, c'est toujours la même chose. Hein. C'est pour donner beaucoup à voir. C'est comme pourquoi monte-t-on en haut de la montagne pour voir le paysage de loin? Finalement, quel est l'intérêt? C'est bien pour avoir une vision sur le vaste monde. Enfin, s'élever et puis avoir un regard plus grand sur le temps et sur le monde et sur la vie. Enfin, ça c'est un peu gros de dire ça, mais je crois bien que c'est ça quand même. Sinon, on n'aurait pas intérêt à se taper du dénivelé dans la caillasse là pour regarder la vallée, quoi. C'est un peu ça. Donc une image qui donne à voir énormément, enfin des choses en premier plan, mais aussi des petites choses perdues tout au fond. Bah oui, ça donne un peu ça. D'ailleurs, j'ai mon prochain projet, c'est ça, c'est d'aller au bout de ce projet et de faire une immense image, de faire un livre d'une seule image, très très grande, de plusieurs mètres de long, sous forme de Leporello. Je dévoile mes petits secrets, mais a priori je devrais travailler là-dessus et de faire une immense scène, une immense fresque avec les personnages de Jacominus aussi, et qu'on fouillerait pendant des heures et des heures, voilà, raconter un moment en une seule image, mais sur lequel on pourrait passer des heures et des heures pour tout découvrir.
Avec plein de détails.
Voilà, c'est ce que j'aime. Et après, c'est mon goût personnel pour la minutie, quoi. Ma maladie mentale personnelle.
C'est une belle maladie.
Bah écoutez, elle embête personne en tout cas. C'est pas bruyant, ça coûte pas cher. France France Culture, par les temps qui courent, Romain de Bec de Lièvre avec Rebecca d'Outremer.
Il s'agit d'un livre, puisqu'il s'agit d'un roman, nous allons jouer avec le livre lui-même, avec la présence physique du livre, de l'objet livre. C'est-à-dire que cet objet va circuler entre nous. Il va être là. Nous allons le lire, nous allons l'utiliser, nous allons lui donner une fonction symbolique. Nous allons, par exemple, nous allons nous comporter un peu comme si le fait de toucher cet objet et de regarder dedans nous donnait le droit de parler le texte. C'est-à-dire que si on pouvait imaginer un individu appartenant à une toute autre civilisation que la nôtre, et ne connaissant pas l'usage du livre, qui nous regarderait faire, cet individu pourrait raconter à d'autres gens, après avoir vu notre spectacle, qu'il a vu des gens qui ont un rite, et le rite, ça consiste à regarder un objet, et à le toucher, et c'est en le regardant et en le touchant qu'ils prennent le droit à la parole. Eh bien ça, c'est le livre. C'est en effet un rite comme ça, le livre.
Rebecca d'Outremer, on entend une voix, celle d'Antoine Vitez, le metteur en scène sur France Culture en 1975, qui parle de la lecture du livre. Alors il parle d'un projet de mise en scène où il souhaitait intégrer l'objet livre à la mise en scène elle-même. Et il parle de ce drôle de rite, en fait, où il imagine du coup des gens qui connaîtraient pas cette chose-là, le fait de lire, comme un drôle de rite. Est-ce que avec Midi Pile, vous avez voulu aussi un peu d'une certaine manière réinventer, ou en tout cas fouiller, tester, imaginer quelque chose d'autre, un autre rapport avec le livre?
Alors, de toute façon, faisant des livres illustrés, je pense qu'on a, nous, auteurs et illustrateurs, on a un rapport différent à l'objet, puisqu'il y a donc des images et que l'aspect visuel compte encore plus, même si on travaille aussi à la typo et même un roman sur papier bouffant, il est travaillé. Et ça reste un objet, évidemment. Mais de toute façon, ce rapport à l'objet, il est très très fort quand on est auteur et illustrateur. On soigne notre l'impression. Avant d'écrire une histoire, moi par exemple, je discute, parce que j'ai la chance de pouvoir le faire aussi, puis j'aime ça, je discute avec l'éditeur, le directeur artistique, pour savoir quelle sera la qualité du papier, quelle sera la couleur du blanc, comment sera la typographie, comment ça sera imprimé, est-ce que ça sera noir, est-ce que ça sera en quadri, etc. Comment sera la reliure, quel sera le format, quelle sera la forme du dos, est-ce qu'il y aura un fil rouge sur les... Enfin, je sais pas si le romancier, je pense qu'il y en a qui s'en soucient tout à fait, mais peut-être que quand ils commencent à écrire, c'est pas leur premier souci. Mais nous, si, c'est un des soucis, enfin, une des questions qu'on se pose. Donc, de toute façon, le rapport à l'objet, puisqu'on est dans le, nous on est dans le bel objet livre, en tant que, voilà, quand on fait des albums illustrés, il est déjà là. Alors avec un livre comme Midi Pile, c'est le, je pense qu'on a poussé le truc au bout du bout, sachant qu'on était aussi vachement dans l'aventure, puisque c'est des livres, très franchement, je pense que ce type de livre n'existe pas tellement. Alors je me permets quand même de citer l'artiste qui a créé un livre sur le même principe et qui m'a donné l'idée de faire des livres, voilà, comme ça qu'on traverse. Donc il s'agit de l'artiste Olafur Eliasson, et qui a fait un livre qui s'appelle Your House, qui est un livre entièrement blanc, mais qui est un livre objet, œuvre d'art, qui ne peut pas être acheté en librairie. Et il a creusé entièrement dans l'épaisseur d'un livre qui doit faire, je sais pas, 70 cm de large et puis 20 cm d'épaisseur. Il avait creusé entièrement l'épaisseur du livre et resculpté à l'intérieur des pages l'espace d'une maison, enfin d'un appartement. Et en tournant les pages, on rentre dans cet espace et on passe l'épaisseur des murs, des fenêtres, etc. Donc je rends à Olafur Eliasson cette idée d'avoir travaillé l'épaisseur de l'objet. De l'objet livre, et voilà, c'est vrai que c'est en voyant cette œuvre là je me suis dit, mais comment c'est bien de travailler le livre dans son épaisseur, qu'est-ce que je pourrais faire moi avec. Donc après j'ai fait mon travail autrement. Donc c'est vrai qu'en tout cas pour la fabrication d'un livre et la conception d'un livre comme Midi Pile, bah tout est, l'objet est super important. Je savais à l'avance, pour l'avoir expérimenté dans un premier album que j'avais fait il y a quelques années, un peu similaire, mais je pense moins intéressant, mais je sais déjà que les gens vont l'ouvrir et déjà vont faire wow, il y a un émerveillement de l'objet même, alors qu'ils n'ont rien lu, qu'ils ne savent pas de quoi ça parle, et même qu'ils n'ont même à la rigueur pas regardé l'illustration. Donc l'objet, oui, on essaye de le... On sait que cet objet-là, ce livre-là, va être consulté, compulsé, enfin trituré comme un objet pour l'objet lui-même, quoi. Et nous, quand on le conçoit et on le fabrique, on subit toutes les contraintes techniques de la fabrication. Et à dire vrai, je ne sais pas si les gens peuvent se représenter ce que c'est, mais le livre est conçu, mais on envoie ça à l'impression, à l'autre bout de la planète, et on ne sait pas du tout si la chose va être possible. Et un jour, on reçoit l'objet fini. Donc en plus, on est dans une conception très théorique et à plat. Je n'ai pas fait de maquette en découpant moi-même les pages l'une après l'autre. Mais bon. J'avais déjà eu l'expérience, encore une fois, sur l'objet, donc je pense que je le maîtrisais bien mentalement. Voilà ce que je peux vous dire sur le livre-objet. Mais voilà, encore une fois, je répète, tous les albums qu'on fait, ce sont des objets qui comptent, qui existent pour l'objet. Et petit détail, je ne sais pas, par exemple, sur les Régisseurs de Jacobus Gainsbourg, où donc on voit mon personnage qui est un petit lapin, très doux, encore une fois, les gens, quand on le voit, j'ai constaté dans les séances de dédicace ou en salon, les gens posent la main sur la couverture et caressent le petit lapin. Et que c'est pas que les petits. Hein. J'ai vu des gens, des messieurs, des dames, des vieux messieurs à moustache, ils font tous la même chose. Ils mettent la main sur la couverture du livre et ils caressent le petit lapin.
Dans le rapport à l'objet, ce qui est intéressant, c'est que cette pratique qu'on a communément avec n'importe quel livre, qui est de tourner les pages, dans le cadre de Midi Pile, là, ça change. Enfin, le fait de tourner les pages, c'est un processus actif qui fait avancer l'histoire.
C'est ça.
Et le temps.
Et c'est ça. Et en plus, vous sentez, je pense que vous vous sentez tourner la page, puisque vous devez faire attention pour les pages les plus fragiles, donc de ne pas les déchirer. Donc je pense que du coup, vous prenez conscience de votre geste. Et effectivement, vous faites avancer l'histoire, puisque vous découvrez le décor en faisant tourner la page. Et donc, c'est vrai que peut-être quand on lit un roman qui n'est pas illustré, le fait de tourner la page, il doit y avoir des jeux, des auteurs qui ont joué avec ça, mais le fait que la page coupe la phrase à tel ou tel endroit n'apporte peu. Voilà, il n'y a pas un enjeu fou. Mais là, elle est très importante. Donc c'est encore autre chose.
On entendait la voix d'Antoine Vitesse, donc, qui était metteur en scène. Et quelle place le théâtre, il occupe dans votre imaginaire ? Notamment la question du décor qui semble évidente dans Midi Pile.
Alors, dans mon imaginaire, je ne sais pas, mais dans ma vie et dans ce qui me nourrit en tant qu'auteur, enfin oui, bah c'est ça, en fait, c'est dans mon imaginaire, donc, tout simplement. Mais ce qui me nourrit personnellement, je dirais, en dehors de mon travail quand même, c'est une place de plus en plus importante. Non pas que j'aille très souvent au théâtre et que je connaisse très bien finalement la discipline, mais j'y vais quand même de plus en plus. Et je découvre à quel point c'est vraiment l'expression qui m'émeut le plus, quoi. Alors de façon générale, le spectacle vivant, je vois pas ce qui peut me toucher le plus qu'un artiste vivant devant moi essayant de produire quoi que ce soit. Un son, un geste, une parole, quand il y a les trois en même temps c'est encore mieux. Mais donc n'importe quelle personne essayant de se donner en spectacle, eh bien c'est fou. Voilà, ça m'émeut, ça me touche beaucoup et ça m'attire de plus en plus. Et alors ça c'est une chose, et par ailleurs je trouve que faire un livre en tant qu'auteur illustrateur, encore une fois j'insiste, c'est vraiment des codes du texte illustré, de la narration par les mots et l'image combinée, c'est une discipline complètement à part, et je trouve que faire un livre illustré, il y a quand même des mises en scène dans le livre qui est, je trouve, très proche de ce qu'on peut faire dans le théâtre. Enfin, je pense qu'on peut comparer vraiment le travail de l'auteur illustrateur et du metteur en scène de théâtre. Parce que, et moi, quelques fois où je donne des masterclass, où je m'adresse aux plus jeunes qui me demandent alors comment on fait pour trouver des idées de ça. Bon, d'abord, je sais pas très bien. Donc, j'essaye de trouver des choses et des trucs pour les aider à formuler et à concrétiser leurs idées. Et ce qui m'a semblé le plus judicieux, c'est de parler de mise en scène de théâtre et d'imaginer la double page du livre comme la scène vide du théâtre. Sur lequel on va faire intervenir des acteurs, un décorateur, un éclairagiste, et on va jouer avec les acteurs, on va décider de leur acting, je sais pas, enfin de leur style de jeu, on va faire de la comédie dell'arte choisir un acting tout en retenue, enfin ça peut intervenir dans le style de dessin, dans la façon dont on va placer les personnages dans la page et dans la composition. On peut choisir des couleurs, de la lumière, un type de décor, ça correspond aussi à un choix de style de dessin. Et on va aussi combiner les mots, donc le texte et les images, comme le metteur en scène va choisir de faire intervenir son acteur et réciter son texte à tel moment où là, l'acteur va se taire et le spectateur va voir juste du visuel, où il y aura un éclairage qui va mettre en scène ceci, cela. Et je trouve que finalement, ça me semble très intéressant. Pour moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup de concevoir mes livres, voilà, comme c'est pas une mini pièce de théâtre, c'est du théâtre de livres. Enfin, et je trouve qu'on a beaucoup à apprendre, nous, auteurs illustrateurs. Il y a beaucoup à inventer encore dans les livres illustrés, parce qu'on n'a pas fait tant d'expérience que ça dans le livre illustré. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je le découvre moi-même dans mon propre parcours, mais franchement, je suis pas une spécialiste du livre illustré, mais je vois bien qu'il y a plein de choses à faire encore. Et je pense qu'en lorgnant du côté du théâtre, on peut se nourrir énormément. Et se rendre compte que oui, des fois, on peut se taire. Ça paraît tout bête, hein. Mais dans un livre illustré, c'est assez rare de voir qu'il y ait des pages silencieuses et que le texte intervienne 5 ou 6 pages après, par exemple. Le rythme est souvent assez banal, image-texte, image-texte, image, à tous les livres. C'est pourtant simple de se dire on n'est pas obligé de parler tout le temps. Quand on est au théâtre, on voit bien qu'il y a des moments de silence. Alors ça dépend des styles, ça dépend des œuvres, etc. Mais on peut se dire, tiens voilà, on peut travailler dans le rythme, le rapport, donc visuel-mot. Ben ça, on peut le travailler aussi dans un livre. Dans l'éclairage, dans les silences, dans l'accélération, dans la surprise, dans un décor qui va s'écrouler. Et je pense qu'on a énormément à se nourrir et à s'inspirer du théâtre, nous, auteurs-illustrateurs, pour faire des livres illustrés nouveaux. Donc, en fait, la réponse à votre question, c'est... ça me nourrit énormément, je m'en rends compte, là, en le disant. C'est prime. Je pense que c'est ce qui va changer ma discipline et ma façon de travailler. C'est en train de le faire, voilà. Je découvre ça et je me dis, waouh, ah oui, en fait, c'est vachement bien tout ça. Il y a plein de choses à faire, ça commence à devenir intéressant.
Et à partir de maintenant, vous avez donc surtout envie d'explorer, oui, la question de comment raconter en tant qu'auteur-illustrateur différemment?
Oui, alors vraiment, vraiment. J'ai exercé pendant 20 ans quasiment, pas exclusivement, mais comme auteur, comme illustrateur seul. Enfin, c'est le, comme beaucoup d'autres, hein, je suis arrivée dans le livre illustré par le goût pour le dessin et la peinture et la conception d'image, qui est un goût qui est souvent chez beaucoup de nous, qui existe chez nous. Alors là, pourquoi, on ne s'y fiche rien, mais j'ai toujours dessiné, j'ai toujours adoré ça. Donc, quand on aime dessiner, qu'on veut gagner sa vie avec le dessin, qu'est-ce qu'on fait? On fait ou de la bande dessinée, c'est un monde, ou du livre illustré. Le livre illustré, il est en édition enfantine, souvent. Il n'y a pas 50 000 possibilités, en fait. Puis après, on travaille comme illustrateur, comme affichiste, publiciste, des choses comme ça. Mais c'est le livre illustré qui permet de s'exprimer le mieux. Donc pendant 20 ans, je me suis exercée techniquement à produire, à faire des images. C'est déjà pas simple, hein. Puis à commencer à m'intéresser au rapport texte-image. Alors évidemment, on fait tout un peu en même temps. Et puis là, prendre la parole en tant qu'auteur et dire, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est raconter les trucs avec les deux. Les mots, l'image et la combinaison des deux va produire un troisième sens, comme au théâtre. Au théâtre, on peut éteindre la lumière, hein, et ne faire qu'entendre. Mais pas forcément. C'est bien de voir aussi. On donne les deux à voir. C'est pour ça que ces livres illustrés, ça n'est pas que du texte décoré. Ce qui existe quand même énormément. Et souvent, les gens, quand ils pensent illustration, ils disent, ben voilà, c'est de la déco. Mais c'est ce qu'on fait là, 9 fois sur 10, hein, nous autres. Mais voilà, il y a plein de choses à explorer dans le rapport texte-image et plein de choses à créer. Et maintenant que j'ai passé le cap de la recherche graphique et de l'apprentissage technique aussi, parce que l'aspect physique, enfin produire une image, c'est techniquement comme un gymnaste, hein, il faut savoir dessiner, c'est pas simple, il faut du temps pour acquérir un peu de dextérité. Je pense avoir acquis quelque chose, ça me va, j'allais dire, ma dextérité aujourd'hui me suffit. J'ai un outil, j'ai mis au point mon outil, si vous voulez, et maintenant je veux l'utiliser pour raconter des choses et travailler théâtralement ce rapport texte-image. Et ça commence là, depuis quelques années, à être intéressant. Ça fait 25 ans que je travaille.
Il y a ceux qui n'ont pas de veines et d'autres qui ont la poisse. Il y a ceux qui ne comprennent rien à rien et d'autres qui ne se rendent pas compte. Il y a ceux qui ne voient que le mauvais côté des choses, et certains qui ne veulent rien savoir. Il y en a beaucoup qui n'osent rien dire, pas mal qui serrent les dents, et un tas qui vont droit dans le mur. L'important est d'éviter d'être de tout cela, s'encourageait Jacominus quand il avait des ennuis. Mais quand il regardait le monde en face dans ses mauvais jours, parce que parfois, on ne peut pas faire autrement, quand il savait les autres dans la peine, quand les séjours dans la lune et la philosophie ne suffisaient pas, quand Polycarpe ne le faisait plus rire et Agathon n'avait rien à raconter, quand César et Biron n'en pouvaient plus, et Léon et Napoléon pas davantage, alors Jacominus n'était plus très sûr de ce qu'il disait. Et non, il ne savait plus ce qui était important. Il était triste, c'est tout.
À l'autre mer, on entend Luc Vauvillier qui vient de lire un extrait des Riches Heures de Jacominus Gainsborough. C'est parce que je voulais qu'on fasse entendre aussi le texte. On a parlé beaucoup du lien illustration-texte, mais là, cette forme particulière du texte et le plaisir que vous avez particulier dans l'écriture de l'énumération, ça vient d'où ?
Ah, très franchement, j'ai pas assez d'expérience pour vous dire, pour analyser. J'ai peu écrit et j'ai pas assez d'expérience, pas assez de recul pour vous dire pourquoi je fais les choses comme ça. J'ai l'impression d'être en pleine recherche, je vous cache pas. Et en plus, dans cet album-là, c'est la première fois que je prenais la parole en tant que auteur, encore une fois. J'avais travaillé sur plusieurs albums auparavant, mais j'étais toujours dans du dialogue. Donc je laissais la parole à mes personnages, en fait, par timidité, enfin. Ça n'empêche pas que c'est moi qui écrivais, bien sûr, mais comme c'est mes personnages qui parlaient, c'était moins impressionnant pour moi. Et là, c'est la première fois que je parle en mon nom. Donc, d'ailleurs, il m'a fallu beaucoup de temps et j'ai dû être très poussée par l'éditeur qui m'a dit « Mais vas-y, tu peux le faire !» Et petit à petit, j'ai fini par lâcher les mots et les phrases et ça me plaît énormément. Pourquoi j'énumère ? Là, peut-être aussi, c'est lié au fait que, encore une fois, je raconte une vie. Il y a des grands moments, des grands thèmes de la vie. Et là, j'étais pas dans le thème le plus gai. On n'avait pas choisi la page la plus rigolote.
Non.
Dans le moment, oui, du questionnement et d'un certain désespoir. Mais il n'y a pas que ça dans ce livre.
Non, il n'y a pas que ça. Mais justement, dans ces moments qui sont donc pas évidents dans la vie de Jacominus Gainsborough, Ce que j'ai trouvé intéressant, c'était l'espèce d'invitation générale au doute. C'est-à-dire, voilà, c'est Jacominus, il y a les rigueurs de sa vie, de sa mort, des événements, etc. Mais comme s'il n'y avait pas de regard en surplomb.
Après, je me suis dit, tiens, je vais parler de la vie, et personnellement, je vois bien que je n'ai pas grand-chose à... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai rien compris. Je n'ai rien compris à rien. On se dit souvent avec les enfants, on s'amuse, on dit, plus je vieillis, moins je comprends. Finalement, je n'ai aucune leçon, jamais, il faut jamais, mais plus ça va, plus je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça, quoi? À part, ça valait la peine, qui est la dernière phrase du livre. Ça valait la peine d'être vécu, j'ai rien compris, mais c'était pas mal. Donc j'énumère des choses qui vont pas, des choses qui vont bien, des rencontres, des gens qu'on a compris, qu'on n'a pas compris, qui nous ont trompés, qui nous ont surpris. C'est vrai, maintenant que vous dites, je me rends compte que j'énumère beaucoup de choses dans une vie. Mais, et puis même la dernière page est une addition de choses, une énumération de faits, de petites choses, de grandes choses, de moments tristes, de moments gais. Bah, c'est à peu près la seule chose dont on est sûr à la fin, quoi. C'est qu'on peut encore faire une addition, mais je sais pas, le résultat, je sais pas trop quel il est.
Mais ça fait un livre sans morale, au sens presque La Fontaine. Il n'y a pas de morale à la fin. Et je trouvais ça bien.
Bah, ça me
dans
va.
Le cadre aussi, surtout d'un livre pour enfants. Enfin, adressé aux enfants, mais pas que.
Ouais. Ben, c'est-à-dire que la seule chose dont je suis sûre, c'est que je suis sûre de rien, quoi, et que y a, mais voilà, tout ça, encore une fois, si, pour moi, c'est pas une morale, d'ailleurs, c'est, encore une fois, la dernière phrase dit, ça, bon, ça valait la peine. Je suis à peu près sûre de ça, mais c'est tout. Et après, il y a des choses à observer, et essayer de profiter de tout ce qu'on peut voir et observer. Le bon comme le mauvais, ça serait plutôt ça la morale qu'il faudrait lire entre les lignes, peut-être. Le bon n'est pas forcément le bon, et le bien n'est pas forcément le bien ou le mal non plus. Bon, je me permets, je repars dans des grands sermons, mais il y a un moment dans le livre, par exemple, où la grand-mère du personnage meurt, et c'est l'enterrement. Et le personnage, Jacominus, est affreusement triste. Mais c'est aussi le moment où il se rend compte qu'il est épris de la personne avec qui il va faire sa vie. Et la conclusion, c'est il était formidable cet enterrement. Ben voilà, ce dont je suis à peu près sûre, c'est que le bon et le mal et le mauvais, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils se placent. C'est un peu ça la morale. Mais ça m'engage pas beaucoup. C'est un peu facile, pardon.
L'autre chose qui revient tout le temps, et vous l'évoquiez, c'est le rapport au temps. Et ce qu'il y a de particulier dans Midi Pile, c'est que donc le personnage qui invite le personnage lecteur à le rejoindre à Midi Pile lui dit de se dépêcher, pour au final l'attendre.
C'est ça. Oui, je suis toujours dans les contradictions. Ben oui, c'est vrai. Le rendez-vous est à midi pile, donc on va spoiler la fin.
Oui.
Il faut se dépêcher d'arriver au rendez-vous pour qu'on puisse se dire au revoir. Ben, j'allais quand même pas écrire une grande histoire d'amour au moment du rendez-vous. Ça m'aurait... C'est vrai, il lui dit « Sois là parce que je m'en vais, parce que je vais revenir, je veux que tu sois là, parce que je veux te dire qu'il faut que tu m'attendes. » Mais c'est le moment qui est important, c'est pas la vie derrière. Après, ça devient plus délicat à décrire. Oui, c'est vrai, mais je me rends pas compte de ce que je fais. C'est toujours des pirouettes à la fin pour s'échapper. En fait, je m'échappe à chaque fois du moment où je devrais faire de la morale, probablement. Il vaut mieux que le couple qui a fini par se rencontrer se sépare, parce que l'un part en voyage, plutôt que d'aller parler de ce que serait une vie une fois qu'on s'est trouvé.
Et ça crée du suspense.
Oui, puis ça m'engage pas des masses. C'est ça.
Comment vous composez avec les références picturales, qui sont quand même assez présentes dans le dessin, qui sont vraiment très très variées, ça peut faire appel à l'histoire de l'art la plus classique. Comment ça s'organise?
Bon, ça dépend, c'est-à-dire dans les rigueurs de Jacominus, donc dans l'album qui n'est pas découpé, j'avais décidé, à part ces pages donc, qu'on évoquait, qui sont ces pages photographiques, de faire 12 grands tableaux, au sens justement théâtral, 12 grands tableaux de vie. Et à chaque tableau, moi-même, je suis allée chercher des références dans la peinture classique. Ça ne veut pas dire grand-chose, parce que c'est parti un peu dans tous les sens, mais Parce que d'abord j'ai plaisir à regarder ces peintures-là, et j'ai une, par exemple un exemple en tête d'un moment où Jacominus est à la guerre. Décidément, on ne cite que des moments pénibles. Encore une fois, il n'y a pas que ça, mais c'est le moment qui illustre l'extrait qui a été lu. Jacominus est sur un champ de bataille, et là, je suis allée regarder toutes ces peintures qui ont été faites au moment des retraites napoléoniennes, ces espèces de champs de bataille immense, sans un arbre, et puis la fumée des canons au loin, c'est très théâtral, et on voit, alors je pourrais même pas vous citer les peintres, parce qu'il y a plein de peintres différents, mais on voit sur ces peintures anciennes, ces petits groupes de soldats perdus dans la neige. Alors il y en a toujours, c'est très théâtral, parce qu'il y en a toujours un allongé, un blessé mais debout, un pas blessé qui regarde au loin, et voilà, il y a toujours des acteurs qui jouent chacun des rôles possibles, et donc j'ai aimé reproduire ces situations-là. Il y a aussi les scènes, on va citer un truc énorme, les peintures de Turner sur les ports, etc. Et puis les marines, les choses comme ça. Donc j'ai regardé beaucoup de ça pour faire la scène du départ de Jacominus sur son bateau. Donc vu de très loin, le port, les bateaux, les milliers de personnages sur le port. C'est par plaisir personnel là que j'ai eu de me nourrir de tout ça pour recracher ma propre version. Mais enfin, c'est pas comparable. Et ça va pas plus loin que ça. Et puis il y a les peintures de Bruegel, évidemment, avec ces scènes d'enfants dans la cour d'école. C'est vraiment par goût. Et puis ça me plaît que les gens se disent « Ah tiens, ça me rappelle quelque chose » et qu'ils aillent revoir un peu ce que c'est que les magnifiques peintures de Bruegel. Bon, là, ils vont s'arrêter à Bruegel, ils reviendront plus au livre, mais non, ça me plaît bien.
Merci, Rebecca Lautremer.
Merci à vous.
Midi pile et Les riches heures de Jacominus Gainsborough sont publiés aux éditions Sarbacane. Ce soir au son, c'était Claude Niort, Milena Hellig était à la réalisation. Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Luc Evauvillier, Lucie Riandet et Valentin Rémy. Pour réécouter l'émission, rendez-vous sur la page de Par les temps qui courent sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. Et tout de suite, c'est le journal.